Bonjour, bienvenue sur Woolly Mood, la chaîne qui s'intéresse à la personne. Aujourd'hui, nous avons Pascal. Woolly Mood. Woolly Mood. Woolly Mood. Woolly Mood.
Bonjour.
Bonjour Pascal.
Bonjour Diana.
Comment tu vas aujourd'hui?
Moi, je vais bien.
Ça va bien?
Oui.
Alors, nous, on s'était rencontrés il y a quelques années déjà.
4 ans, je crois.
4 ans? Mmh. Ok, mmh. C'était via Corinne.
Oui, exactement, Corinne Chezeau.
Qui, mmh. En fait, j'avais passé une interview chez elle et puis elle m'a dit, elle m'a parlé de toi.
Absolument.
Et puis après, ben, toi, tu m'as contactée. Et on est rentrés en contact et tu étais venue une fois et on avait discuté de tout et de rien. Tu étais sur plusieurs projets et tu m'avais aussi fait une séance de mesures, je me souviens des arcs-en-ciel sur la feuille. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'était exactement?
Oui, tout à fait. C'est juste pour pouvoir voir à peu près qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi ou par rapport à toi ou autour de toi à ce moment-là, dans un temps précis qui est simplement le présent. Et puis, ça consiste simplement de voir en fait tous les différents phénomènes qui se passent sans entrer forcément dans savoir exactement à quoi ça correspond ou qu'est-ce que c'est.
Mm-hmm. Je me souviens, ça parlait plus de fréquence.
Oui, c'est une question de fréquence et de luminosité aussi. Ouais. Et ça se mesure en bovis.
Donc, tu te souviens ce que tu m'avais dit?
Non, je ne me souviens pas. Non.
Que j'avais un truc un peu plus dans la spiritualité, que j'étais plus consciente que certaines.
Alors, c'est tout à fait possible.
Hein.
C'est tout à fait possible. Mais comme j'en mesure beaucoup, oui. Je ne me souviens pas de tout. Hein.
C'est un outil que tu utilises souvent?
Je l'utilise souvent parce que je trouve que c'est très important que les gens puissent se repérer, mm-hmm. avoir aussi une mesure et comprendre en fait qu'en fait on est un corps humain, mais qu'on émane des rayonnements, qu'on émane en fait des fréquences, et puis en fait qu'on est dans le présent avec nos difficultés, nos simplicités, avec notre façon de voir, de vivre, etc.
Qu'est-ce que cet outil en fait apporte? Comment ça s'appelle déjà l'outil?
Alors, l'outil en soi, c'est une échelle de Lecher, mmh. et elle permet, en fait, selon les fréquences, de pouvoir mesurer les champs.
D'accord.
Et à ce moment-là, ça donne justement une mesure exacte qu'on peut reprendre. Elle va nous donner exactement ce qui se passe dans le présent. Et puis, ça va toucher, en fait, différentes fonctionnalités du corps.
C'est génial parce que beaucoup d'outils en fait mesurent le passé et le futur et on ne s'arrête pas vraiment au présent.
Ouais.
Donc, c'est ce que j'ai apprécié. Puis, ça peut varier suivant notre état vraiment de la journée même.
Absolument, tout à fait vrai. Ça peut varier. Donc, il n'y a rien qui est vraiment stable, mm-hmm. mis à part justement tout le domaine de la santé et le domaine de la spiritualité. Parce qu'en fait, ça, ce n'est pas un axe qu'on change d'une heure à l'autre. Mais en fait, c'est quelque chose qui se réalise au fur et à mesure du temps.
Donc, ça fait depuis combien d'années que tu es dans les soins?
Alors moi, ça fait 37 ans que je suis dans les soins.
Ça fait un sacré parcours. Est-ce que tu peux m'expliquer
je vais essayer de simplifier un petit peu tout ça. Donc, j'ai commencé en faisant des massages comme ça pour moi. Et puis, à la suite de ça, j'ai rencontré Jacques Planas à Marly, dans le canton de Fribourg,
d'accord.
qui enseignait des massages, et puis qui avait une école. Et je me suis inscrit, j'ai fait l'école, j'ai reçu le diplôme. Et puis après, suite à ça, en fait, j'ai travaillé dans différents secteurs tels que l'électricité, et je me suis aperçu en fait aussi des gens qui trouvaient des difficultés à travers le métier. Et voilà, j'ai commencé à pratiquer aussi dans ce sens-là. Puis petit à petit, ben, je me suis mis à mon compte. Et puis j'ai commencé à continuer à apprendre d'autres pratiques, notamment sur la colonne vertébrale, mm-hmm. pour pouvoir avoir plus de connaissances sur l'ensemble du corps.
Quelle est l'importance de la colonne vertébrale par rapport à l'ensemble du corps?
C'est une bonne question. Donc, ma vision, en fait, elle est assez holistique. Donc, pour moi, c'est un sens profond, en fait, de regarder ça dans sa totalité, mm-hmm. et non pas de regarder ça par partie ou par section ou par ce que je comprends qui existe aussi. Mais disons que pour moi, ma vision, elle est plutôt justement toujours de travailler sur l'ensemble. Donc, la colonne vertébrale, elle est déjà un élément protecteur des organes. Donc, en fait, elle a un rôle très, très important Parce que lorsqu'il y a justement des modifications qui se passent à l'intérieur de notre corps, la colonne vertébrale, elle va tout de suite réagir. Et notamment la tête. Parce qu'en fait, pour pouvoir maintenir l'équilibre du dos aussi, hein, donc, c'est que nous, on a des cristaux en fait, qui se trouvent dans notre tête et qui nous permettent d'avoir le sens de l'équilibre.
Ah oui, c'est le fameux... comment on appelle ça déjà ? Les cristaux, quand c'est déséquilibré, on se sent mal.
Voilà, on se sent mal, on tangue, on perd l'équilibre. Il y a beaucoup de...
C'est l'oreille interne.
C'est l'oreille interne, ouais, c'est ouais, tout à fait. C'est l'oreille interne. Et le but, justement, c'est de stabiliser ces éléments-là. Donc, on peut voir au niveau de la colonne vertébrale que l'action-réaction, elle est extrêmement rapide. Et puis qu'en fait, la colonne vertébrale, elle est un peu comme un bâton. Et puis quand le bas bouge, bah, le haut, il bouge aussi. Donc, en fait, on est une unité, on est une vraie unité. Donc, dans tout, on est une unité.
Et du coup, quand il se déséquilibre, qu'est-ce que ça crée concrètement chez l'humain ?
Alors, quand c'est déséquilibré, d'abord, la première chose, c'est que ça crée des douleurs, puisque les systèmes nerveux et musculaires, en fait, vont tout de suite réagir à la situation. Et la vertèbre, bien sûr, puisqu'elle va être, en fait, soumise à une pression. Et ces pressions, ben, parfois, elles peuvent venir jusqu'à... on a en fait un intervertébral où on a une bille au centre, puis, symboliquement. Donc, c'est vraiment pour pouvoir... Elle se pose dessus. Et lorsqu'il y a une pression latérale de gauche ou de droite, eh bien, en fait, cette bille, elle bouge. Et puis, elle peut aller jusqu'à aller à l'extrémité en fait, de la vertèbre et créer une hernie discale ou quelque chose comme ça, où le noyau va carrément perforer les tissus latéraux et créer en fait un épanchement, donc un liquide qui se répand et puis qui va se durcir.
Et puis, ben, ce que je sais, combien de temps tu conseilles de faire par année des soins, justement pour rééquilibrer déjà la colonne vertébrale qui est un axe central ?
C'est un axe central, c'est vraiment une priorité que les gens devraient vraiment se rendre compte qu'en fait, c'est vraiment très très important d'avoir justement cet axe, parce qu'en fait, tout s'aligne à partir de cet axe de la colonne vertébrale. Combien de fois ? Ben, disons que ça dépend, parce que si je prends le domaine des sportifs, eh bien, ils sont très souvent soumis à des tensions multiples et variées en fonction du type de sport qu'ils exercent. Et en même temps, il y a une information en fait, que la personne elle reçoit, qu'elle écoute ou qu'elle n'écoute pas. Et puis, à un moment donné, il y a une compression qui va se faire au niveau de la colonne et elle va répercuter automatiquement cet effet sur un des organes, que ce soit le foie, la rate, le pancréas ou même le cœur. Hein. Donc, ça peut avoir une influence directe. Et après, il y aura une petite déviation de la colonne, très, très légère, hein, puisqu'on parle du micron, hein, on parle de petites distances, hein, c'est vraiment jamais des grandes choses, hein, parce qu'en fait, comme on a une partie qui est centrale de la vertèbre qui est extrêmement sensible et délicate, qui sont les faisceaux pyramidaux, et eux, ils viennent justement jusqu'au niveau du cerveau. Donc il y a toute une délicatesse, je dirais, qui se trouve au centre. Ce qui fait que quand on bouge, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se répercuter au niveau du corps.
Donc là, moi, ce que je remarque sur moi déjà, c'est que ben, des fois, je suis trop déconnectée. En fait, vraiment, la tête a l'impression qu'elle gère, elle est ailleurs et tout. Puis, c'est mon corps qui me dit stop au bout d'un moment. Et souvent, c'est trop tard. Donc toi, qu'est-ce que tu conseilles comme prévention possible à faire avant d'en arriver à ce stade-là, parce que là, la société va de plus en plus vite, on est bombardé d'informations tout le temps, et finalement, on est très, pour ma part en tout cas, là-dedans, je trouve, et plusieurs personnes autour de moi me disent la même chose. Donc, comment se rancrer et rééquilibrer tout ça ?
C'est une très bonne question. Au niveau de la colonne vertébrale, je dirais que justement, il y a aussi une question du sommeil, c'est-à-dire la disposition par laquelle, en fait, on se laisse se détendre. Si la colonne vertébrale, elle est tendue, elle est sous pression, en fait, le reste du corps l'est aussi. Et il y a justement un décalage qui se passe entre la tête et le corps. Ce décalage, il est énergétique, hein, c'est que simplement, on veut avec la volonté du cerveau. Mais en fait, lui, le corps, ben, il donne d'autres signaux. Et puis, il voudrait peut-être plus se reposer ou, dans un autre cadre, ben, aller à la piscine, par exemple, hein, aller dans l'eau, aller nager, faire quelque chose qui permette vraiment de détendre le corps. Et puis, lorsque l'on est capté par toutes les choses de tous les jours, eh bien, on ne pense pas tout le temps à son corps. On est plutôt en train de penser aux choses qui se passent à l'extérieur. Mmh. Et en même temps, le recul par rapport à soi, eh bien, il n'est pas donné forcément comme ça. Il faut justement souvent qu'il y ait une manifestation qui se crée pour que la situation, on y commence à y penser ou on commence à s'apercevoir qu'il faut y a à réaliser les choses d'une autre manière.
Et comment rendre ça plus conscient, plus rapidement, pour éviter justement ces douleurs finalement qui sont très... En fait, qui nous mettent KO et au lit. Et...
Oui, tout à fait. Donc, on peut dire que l'extrême, c'est une hernie discale. Puis l'extrême, c'est justement quand on est figé dans notre lit, on ne peut plus bouger. On n'a plus cette possibilité de faire les choses comme on a envie parce que le corps, il dit stop. Donc comment on peut faire? Eh bien, c'est bien de temps en temps de pouvoir se détendre, même ne rien faire du tout, s'asseoir quelque part, être assis et être avec soi pendant un moment.
C'est ce que tu appelles la méditation, toi? Qu'est-ce que tu entends par méditation quand on parle de méditation?
Alors pour moi, la méditation, pour moi, hein, je dis bien, hein, c'est une méditation active. La méditation, pour moi, ce n'est pas justement de se déposer quelque part, puis rester comme ça, puis se dire, bon, bah, y a le cerveau qui continue à tourner, et après de voir qu'est-ce qu'on peut en faire, ou rentrer vraiment dans des inspirations, expirations. Oui, mais moi, je trouve qu'il y a à être plus dynamique. Mm-hmm. Parce que sinon, justement, on va dépendre continuellement de nos réflexions. Et en fait, quand on est dans notre état de repos ou actif, ben, on n'a pas changé au niveau de notre cerveau. On est toujours en train de réfléchir, penser, etc. C'est ce que je crois que le but, là, c'est de changer cette dynamique pour pouvoir rentrer dans quelque chose qui est bien plus approprié pour soi.
Et qu'est-ce que tu proposes par rapport à ça? Ou comment tu le fais, toi?
Alors moi, en fait, quand je suis assis et que je ne bouge pas, j'active ma respiration. Donc, je vais beaucoup plus vite dans le rythme respiratoire.
Ok. C'est ce qu'on appelle du breath work. T'as déjà entendu parler?
Pas du tout,
c'est
non.
Une discipline où justement, on travaille sur la respiration, on fait exprès de l'accélérer, de la ralentir.
Ouais.
Et on joue là-dessus pour réénergiser ou pas, ou suivant si on a trop d'oxygène, pas assez, enfin... Ça y est, j'avais fait des cours là-dessus, c'est très intéressant aussi. Et c'est un peu ce que tu fais, je pense, indirectement. Mais après, il y a des tempos.
Absolument, oui.
C'est impressionnant parce que ça change vraiment très rapidement tout l'organisme. Ça régénère ou ça enlève les toxines. Enfin, la respiration, c'est quand même la clé, il me semble, de beaucoup de choses. C'est qu'on parle du premier souffle et du dernier souffle.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui te fait que tu t'es lancé dans les sons? Parce que tu m'as parlé d'électricité. On est au son et
t'as en fait, depuis
un autre
que
parcours,
je suis tout petit, j'ai fait plein de choses, effectivement. Depuis que je suis tout petit, en fait, je suis un passionné de l'énergie. Mmh. Et j'ai toujours trouvé l'énergie comme quelque chose qu'on a mis de côté. Parce que bah, la table, elle est vivante, elle a une énergie.
Les moutons aussi, tu crois?
Oui, les moutons aussi, oui. Ils sont beaux, ils sont tout. Oui. Et puis, en fait, même l'air est vivant. Donc, il y a vraiment, justement, plein d'éléments dont on n'est pas forcément conscience, comme ça. Mais en fait, justement, l'inspiration-expiration, c'est tout lié à cette ventilation. Et puis, c'est une énergie. Et cette énergie, ben, on peut la canaliser ou bien pas savoir quoi faire. Donc, tout d'un coup, c'est comme on se remplit de beaucoup d'énergie, puis on ne sait pas comment la dépenser. Alors... tout à coup, ben, quand on est enfant, on bouge beaucoup, on a envie de faire plein de choses, tout et puis rien du tout en même temps. Enfin voilà, il y a tout un processus qui est là derrière. Et moi, l'énergie m'a passionné parce que je trouvais justement intéressant de regarder que les adultes, ils étaient bougeaient pas beaucoup, puis que les enfants, ils étaient tout le temps en train de faire plein de choses. Et ça faisait des décalages qui étaient assez importants. Mmh. Et moi, après, ça m'a vraiment lié aux minéraux. Donc, moi, j'ai été passionné aussi de ces éléments-là qui ont un rythme, justement, qui est beaucoup plus lent que le nôtre, en tout cas en aspect dynamique vivant. Mm-hmm. Par contre, leur rayonnement, il est énorme. Donc, vraiment,
t'as pu les tester, en fait?
Voilà, oui, j'ai fait des petites mesures parce que, voilà, à l'époque, ben, je prenais ce que j'avais et puis je le faisais un peu à ma façon. Mais j'ai appris justement comment fonctionnaient mieux les minéraux. Et en fait, les minéraux et nous, on a des fonctionnements qui sont exactement les mêmes. Donc, juste qu'on se sépare plus de la nature que toute autre chose, en pensant la nature, c'est quelque chose et moi, je suis un élément différent. Mais en fait, moi, je suis autant la nature que la nature. Donc, encore une fois, pas dissociable.
Du coup, pour les minéraux, si on focalise sur ce sujet-là, qui m'intéresse, c'est de savoir, ben, il y a beaucoup de ventes de bijoux avec minéraux, justement, avec les pierres, etc., qui ont leur spécificité, mais qui sont déjà transformés pour moi. Est-ce que ça change quelque chose à l'énergie dégagée par rapport à la transformation de la pierre? Si elles sont polies, pas polies, etc.
Alors, effectivement, ça peut changer certaines choses dans les effets que la pierre, en fait, peut émettre. Mais encore, ça dépend comment elle est taillée. Effectivement, ça dépend comment elle est traitée, comment elle est.
Donc, si tu conseilles ben, aux personnes qui adorent porter les bijoux pierres parce que ça leur fait du bien, même dans la conscience ou
C'est bon?
réellement, qu'est-ce que tu conseillerais de porter comme type spécifique? Plutôt le plus brut possible
Moi, je suis assez pour le brut. Même si je trouve que justement un diamant, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment un élément quand il est taillé, il donne toute son ampleur. moi, je préfère le brut parce que je trouve qu'on est justement plus à même à sentir directement comment elle est la pierre avant qu'on lui donne, qu'on la façonne, qu'on lui donne. C'est un peu comme on mange une carotte. Alors, c'est
C'est
vrai, hein, parce qu'en fait, la carotte, on va la cueillir dans la terre, et puis ben, on va la laver pour lui enlever la terre, pour pas avoir la terre dans la bouche. Mais si on mange la carotte avec sa pelure, ou bien si on pèle la carotte, eh bien, on n'a pas du tout la même sensation dans la bouche.
oui, ça va.
Ça change pas le goût, hein, parce que le goût, il est le même, mais dans la texture, la manière
Beaucoup.
de sentir, percevoir, en fait. Le volume, c'est-à-dire tout ce qui était autour au moment où la carotte, elle a poussé, elle a grandi. La pierre aussi, hein, puisqu'elle se développe aussi au fur et à mesure du temps. C'est le même principe.
Donc, idéalement, parce que normalement, la
Pour
pierre, il faut
moi.
la tailler pour voir le joyau dedans. Et idéalement, il faudrait garder la coquille.
Ben oui, en fait, effectivement. Hein. Je vais prendre un autre parallèle, c'est un avocat. L'avocat, en fait, on va le couper, on le pèle et tout, mais pour que l'intérieur ne change pas sa couleur, on va laisser le noyau, en fait, avec, pour permettre justement ce que tout le reste
Intact.
intact.
C'est bon.
Donc, effectivement, on peut aussi mettre la pelure, parce qu'en fait, la pelure, elle
Elle
joue le
maintient
même,
aussi.
elle joue le même rôle aussi.
J'adore. Tu fais beaucoup de corrélations avec la nourriture. Est-ce que tu peux m'en parler plus hein, sur la manière que tu te nourris, peut-être?
Alors écoute, non, au niveau de la nourriture, moi je me nourris comme tout le monde, hein. Je fais pas une nourriture particulière. La seule chose, c'est que je porte attention. Je porte attention à la nourriture, à ce que je mange, à ce que je bois, comment je le mange aussi, c'est-à-dire dans quelle attitude moi je me trouve au moment où je mange.
Donc, c'est vraiment ton attitude
Voilà, tout à fait, ouais.
face à la nourriture, peu importe ce soit du McDo,
Oui,
c'est
absolument.
vraiment ton intention derrière et qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Comment tu fais ce procédé? C'est intéressant, ça.
Eh bien, comment je vais dire ça? Simplement, je me centre et puis je me concentre sur le fait que je mets tout le reste de côté et je reste concentré sur ce que je fais. Donc, en fait, quand j'écris, ben, c'est la même chose. Je me concentre bien sûr quand j'écris. Puis lorsque il y a des choses qui commencent à me perturber, ben, j'arrête. Parce qu'en fait, ça m'amène ailleurs ou ça m'amène pas exactement là où j'ai envie d'aller.
Donc, c'est vraiment vivre ce moment présent
Oui,
intensément et puis
tout à
mettre
fait.
une intention ben, sur ce qui te nourrit finalement et ce que
Absolument.
tu mets dans ton corps. Et ça, c'est un procédé très conscient. Et à partir de quand tu as réussi à implémenter tout ça, cette façon de vivre?
Bien, parce que dans mon enfance, je suis passé par des différents stades. En fait, j'ai énormément déménagé quand j'étais petit et de fait, j'ai goûté énormément de choses différentes, mais surtout, j'ai vu que mon estomac, à un moment donné, il supportait pas tous les mélanges. Et puis, en fait, bah, je me sentais pas bien. Donc, petit à petit, j'ai commencé à me centrer beaucoup mieux au niveau de la nourriture. Peu importe, en fait, la nourriture, c'est vraiment la manière comment on se trouve ou comment on se place, en tout cas pour moi, de mettre en action cette présence.
Génial.
Et puis cette écoute, parce qu'en fait, quand un aliment n'est pas bon, ben, on va le sentir
à
l'odeur.
Signes.
Voilà, ouais. Exactement. Hein, donc, mais même, hein, y a des produits qui peuvent être mélangés, mais qui ne sont plus bons.
Par exemple?
C'est égal, du maïs par exemple, si le maïs est resté trop longtemps à l'air mais pas assez justement actif, il va être mélangé avec autre chose, mais après ça va donner un drôle d'aspect, puis on le détecte vraiment très facilement quand on est bien concentré. Sinon, bien sûr, on va le manger, puis après il faudra l'ingérer. Ça sera...
Et donc ça affecte tous les organes, ça affecte
tout à fait.
La totalité du métabolisme.
Oui, et puis après on se demande pourquoi on est malade ou pourquoi on a certaines choses qui se passent. Quoi.
Donc, ton conseil par rapport à ça, ce serait que les personnes se focalisent beaucoup plus sur l'intention de ce qu'ils mangent et comme ça, laisser le corps détecter ce qui est bon pour son corps ou pas ou...
Je dirais plutôt, c'est la personne, elle a plus à être avec elle-même, plus à entrer en fait dans la forme d'un respect par rapport à soi. Parce qu'en fait, c'est sa propre observation qui fera qu'automatiquement, on va se placer différemment pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir être avec les choses.
Qu'est-ce que tu en penses de l'intuition, du coup? Je rebondis là-dessus. Est-ce que c'est une forme d'intuition, ben, avec tous les sens, etc., pour faire les meilleurs choix?
L'intuition, moi, je trouve que, justement, c'est ce que j'ai appris un petit peu avec les pierres, pour revenir dessus. Hein. C'est parce que les pierres, en fait, elles nous amènent à... Pourquoi on choisit une pierre? Qu'est-ce qui nous amène vers cette direction-là ou ce choix-là? Alors que... Ben, des pierres, il y en a plein, hein, en fait. Même quand on se balade dans la nature, on va dans la forêt ou n'importe, tout à coup, on découvre une pierre, puis elle dit « Ah, elle est super !» On ne sait pas pourquoi ça nous a attirés, et hop, on la prend. Donc l'intuition, c'est vraiment comme quelque chose qu'on s'écoute. C'est comme quelque chose qu'on entend bourdonner à l'intérieur de soi, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Ouais, c'est ça, c'est... Ah, t'as vu? Donc vraiment, c'est plutôt ça. Alors après, c'est une question d'entraînement aussi. Hein. Quand on est de plus en plus avec son intuition, les choses, après, on les amalgame plus facilement dans quelque chose où on sent vers le quoi on va. Alors parfois, pour pouvoir expliquer l'intuition, je l'explique aussi comme ça. Je dis, lorsque je vais dans un supermarché pour acheter du dentifrice, eh bien, en fait, on a une rangée de dentifrice qui nous est présentée. Mais lequel est bon pour soi? Ben en fait, parce que sinon, on pourrait se dire, ah ben cette semaine, j'achète un dentifrice là, puis la semaine prochaine, c'est lui là. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, ça fonctionne en fonction de ce que nous, on vit dans le présent. Donc, une fois, on peut être attiré par un type de dentifrice, peu importe la marque, en fait, c'est le contenu qui va avoir une résonance avec nous. Et puis après, c'est de pouvoir voir quel élément est favorable à quelle période. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un dentifrice qui nous a très bien convenu qui va tout le temps nous convenir. À un moment donné, il y aura automatiquement des changements qui vont s'opérer. Donc, c'est bien d'écouter vraiment bien son intuition pour pouvoir amener les choses à bon port.
Je rebondis par rapport à ça sur les relations, du coup. Est-ce que ça s'applique dans les relations, les changements Je ne sais pas si tu es mariée ou divorcée, j'en sais rien, sur ta situation privée. Par contre, comment tu as navigué avec ces intuitions, avec les changements de la vie, face aux défis aussi?
Oui, c'est surtout face aux défis, en fait, aux défis, aux erreurs qu'on commet, parce qu'en fait, c'est ça qui nous donne le plus en fait, d'informations. Eh bien, parce que déjà, nous, on a nous-mêmes, enfin, moi, dans ce cas-là, je suis à l'écoute de moi, mais en fait, je n'ai pas la vision des autres, ni de l'autre dans un couple. Donc, en fait, c'est très important, la communication.
Dans la communication.
On est obligé, on ne peut pas tellement faire autrement. Puis l'autre, c'est l'intuition. Effectivement, c'est de voir que l'autre il puisse être le plus dans le présent possible. Sinon, on est sans arrêt en train de faire des projections, et puis dans les projections, il n'y a rien de concret. C'est tout de l'abstrait, c'est tout du... Ça peut avoir un sens dans l'explication, mais ça n'a pas de sens dans la réalité. C'est comme ça fait... On parle d'un vide ou d'une situation qui n'est pas concrète. Ça ne contient pas quelque chose. Alors, lorsque l'on ou lorsque je parle d'une situation futuriste, eh bien, je me mets dans une situation où je n'en sais rien du tout. Mm-hmm. Je ne le sais pas. La mesure, j'ai à la prendre maintenant, mais je ne peux pas dire de quoi sera fait demain. Parce que même si j'utilise des propos en disant « voilà, va la semaine prochaine, je vais faire ça, ça, ça », alors oui, je peux le planifier, mais en fait, il n'y a rien qui me dit que dans mon planning, il n'y a pas des changements qui vont intervenir au fur et à mesure du temps. Donc oui, je vais concrètement l'appliquer, mais dans une relation, les projections, c'est un moyen facile de détourner certaines informations qu'on ne veut pas transmettre ou qu'on ne veut pas dire, ou sur le moment où on est un peu emprunté parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la décision qu'on va prendre réellement. Et je crois qu'on n'est pas obligé de rentrer dans ces phases-là. Et puis ça, ce n'est pas facile pour les gens, de manière générale, de pouvoir l'entendre. Parce qu'en fait, c'est plus qu'est-ce que je vis maintenant, là ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Alors maintenant, moi, je suis en face de Diana. Et puis Diana m'a posé une question. Alors, ce que je pourrais faire, ce que je pourrais transmettre au niveau de l'instant présent, c'est que la première chose à faire, c'est aller dans son cœur à soi. Enfin, moi, je vais dans le mien pour sentir cet instant avec toi. Mm-hmm. Tu vois ? Mais je le fais maintenant. Je le fais tout de suite. Et puis, je le fais constamment. Parce qu'en fait, voilà, on ne peut pas tellement faire les choses différemment. En fait, le but, justement, étant d'être dans le cœur et d'amener les choses à une vraie compréhension. Pas une projection. Parce qu'en fait, dans ce choix-là, on se trompe soi-même. On va dans une direction où la difficulté, elle est que est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Et puis, lorsque l'on est dans le cœur, on se pose pas de questions si c'est juste ou c'est pas juste. On est là dans le présent et on sent ce qui se passe.
Mais alors, comment être... Parce que là, on parle que du cœur, mais est-ce aligné avec le cerveau et de se dire, il n'y a pas que les projections futures, pour moi, il y a le passé aussi. Les traumas du passé ou les peurs du présent, du passé, peu importe qui fait qui on est, nos expériences, comment mettre ça de côté et rester justement centré sur l'instant présent, être dans ce flow
Alors, je vais qui l'expliquer. Nous entoure. Je vais l'expliquer d'une certaine manière. Mm-hmm. Nous avons un enregistreur permanent en nous. C'est nos cellules. Mm-hmm. Et nos cellules, elles enregistrent absolument tout à tout instant. Chaque moment immédiat est enregistré. Et lorsque l'on vit dans notre vie des émotions, mm-hmm. des champs d'émotions, qui peuvent être traumatiques, ça crée en fait des supports de charge dans notre mémoire. En fait, on a une bande de mémoire, et cette bande de mémoire, elle est à chaque instant, c'est enregistré.
Je vois comme les cassettes qu'on tournait à l'époque.
Ouais, c'est l'idée, c'est vraiment l'idée de ça. En fait, à des moments, eh bien, il y a des charges qui sont déposées. Puis ces charges, elles sont émotionnelles. Mm. Puis quand la charge émotionnelle, elle est intense, elle est importante, en fait, c'est un peu comme on se charge dans notre sac à dos. Mm. En fait, tous ces champs émotionnels, on les met, en fait, dans notre sac à dos, qui fait partie de notre mémoire. Et à un moment donné, simplement, on a à se rendre compte que notre sac à dos, il est bien chargé, puis qu'il y a vraiment à s'en occuper. Donc, on a à s'occuper de soi par rapport à ça. Donc, pour pouvoir aller lâcher ces éléments-là, il y a à comprendre qu'il y a eu une cause à un moment donné, mm-hmm. et ça a donné un effet. Puis cet effet, eh bien, il est resté en mémoire jusqu'à aujourd'hui, si on ne s'en est pas occupé.
Et comment dénouer ces effets ?
Alors, déjà, c'est de se poser des bonnes questions par rapport à soi, en se disant, aujourd'hui, c'est bizarre, je me sens vraiment extrêmement fatigué, mais quel est l'élément qui me lie à cette fatigue ? Ou qu'est-ce que je ressens ?
Que ça peut être l'externe, l'interne ? En général, c'est les deux.
Alors, généralement, c'est toujours en soi. Mais l'externe, il peut nous fatiguer, mais ça, c'est simplement de notre attitude par rapport à l'extérieur. Donc, en fait, dans tout ça, il y a cette compréhension à voir que si on s'est laissé trop happer par l'extérieur, donc nous, ça nous consomme de l'énergie, c'est comme on est en résistance à une situation, plutôt que de comprendre en fait que justement, en libérant cette résistance, on va accéder en fait à des informations qui se sont passées mm-hmm. et puis qui ont été très impactantes pour soi. Alors au début, on va aller justement vers les traumatismes importants, et puis on va déjà pouvoir prendre conscience que ces traumatismes, ils existent, et puis qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ces moments-là.
Donc, comment on transforme ces traumatismes en quelque chose qui nous sert dans notre quotidien pour avancer vers nos buts?
Alors, je crois que le fait de se servir, c'est vraiment de prendre conscience qu'on a à s'alléger le plus possible et à être dans la joie. Donc, cette joie, c'est quelque chose qui nous fait sautiller, qui nous fait bouger.
C'est ça,
on a envie que la chose elle soit complètement différente. Ça suffit maintenant de nous embêter avec des choses dont on ne peut pas toucher, faire quelque chose. Il est important, je trouve, que justement, de s'en libérer le plus rapidement possible.
Tu crois aux univers multidimensionnels?
Oui, oui, tout à fait. Je crois qu'on est une multidimensionnalité. Donc, comme je disais, je suis un passionné de l'énergie. Et l'énergie, j'ai vu qu'elle n'allait pas que seulement d'une manière linéaire, mais tout à fait d'une manière exponentielle. Et puis, en plus de ça, de manière sphérique. Et encore en plus de ça, dans tous les sens, dans toutes les directions. Et puis, qu'il y a des axes principaux qui sont verticaux et horizontaux.
Okay. Comme les graphiques, finalement.
Comme les graphiques.
Ouais.
Même comme les feuilles de papier sur lesquelles on écrit.
C'est vrai. c'est vrai que tout est assez axial. Hein,
voilà, tout à fait. Alors, on a tellement l'habitude de le voir qu'on ne réalise pas, en fait, que toute chose est sous une forme comme ça, même si elle est sphérique aussi.
C'est bon, c'est vrai. En mesurant les ronds. Enfin, là, j'ai ma géométrie qui revient dans ma tête et je dis, c'est intéressant, ça, cette période.
Oui, tout à fait.
Et puis, durant ton parcours, donc, tu aurais pu choisir plein d'autres choses.
Oui, bien sûr. Dans mon parcours, en fait, moi, dans l'énergie, j'ai voulu aller comme un électricien, j'ai fait électricien de réseau, comme profession, hein, comme apprentissage. Mmh. Et je l'ai fait parce que je voulais comprendre ce que c'était que le courant fort. Parce qu'en fait, on nous parle de beaucoup de choses aussi dans la vie. Mais qu'est-ce que c'est?
C'est quoi?
Et puis, en fait, le courant fort, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Donc, la haute tension, ça s'appelle haute tension.
Hein. OK.
C'est que... Oui, c'est pas le courant, c'est la tension. C'est que le câble, en fait, il a du volume. Il a vraiment du volume. Donc, avec un câble qui a du volume, il y a une expansion, en fait, importante. Mm-hmm. Donc, c'est pas toujours, on croit, c'est ce qui se passe dans le câble. Mais ce n'est pas dans le câble, c'est vraiment toute la notion électrique qui se passe autour et dans le câble.
C'est comme les réactions en chaîne.
Oui, tout à fait.
Comme les bombes atomiques, etc. Avec leurs réactions en chaîne, j'avais étudié ça aussi un peu. C'était super intéressant de voir comment ça se prolifère finalement.
Voilà, exactement.
Hyper rapidement et d'une puissance où on peut la contenir. Puis quand ça s'ouvre, en fait, ça dégage. Est-ce que l'humain a cette capacité-là, justement, aussi d'être un catalyseur d'énergie ou c'est...
Oui, tout à fait, exactement. Et il l'est en permanence. Sauf que, justement, avec tout le concept de croyance, eh bien, il se limite de beaucoup de choses. Et la limitation, elle est que, justement, on croit que ça se passe dans le câble, que ça, comme la tension, elle est dans le câble, puis pas le reste. Puis, en fait... Nous sommes un générateur, un énorme générateur de lumière et d'énergie.
Donc, si on parle de générateur, même moi, je sens aussi... Est-ce que les générateurs captent l'énergie pour la rediffuser?
Oui, bien sûr. Il y a, comme toute chose chimique, il y a des plus et des moins. Et puis, les moins et les plus s'attirent. C'est pour ça que, par exemple, même dans une corde électrique, hein, donc d'un ligne à haute tension, il y a des champs d'induction. Donc, il y a des champs qui sont encore différents, qui sont justement aux alentours, en fait, du câble, et qui génèrent, en fait, à eux-mêmes un champ électrique.
Merci pour toutes ces explications. En tout cas, c'est impressionnant. J'apprends beaucoup. Et à chaque fois, chaque discussion qu'on a, en fait, ça m'ouvre l'esprit d'une manière très différente. Et même, je me sens plus énergique. Donc, tes papas, tes grands-papas, j'aimerais savoir comment tu concilies, en fait, vie d'indépendant, vie de famille, et quelle est l'importance de tout cet écosystème pour toi?
Ça, c'est une grande question. Je vais essayer de la simplifier le plus possible. Comment je vais dire ça? Je pense que la famille, c'est la plus petite cellule de la société. Et au sein de la cellule, il y a vraiment à avoir, comment je vais dire ça, une vision positive dans l'ensemble. Pour moi, ça a été important de me remettre en question à plein de niveaux pour pouvoir permettre à trouver que la cellule familiale, en fait, elle ait vraiment cette fonction. C'est une famille et en fait, elle a à grandir, elle a à se développer et puis chacun a sa vision des choses, chacun vit aussi ses choses au moment opportun. C'est vraiment de conserver cet esprit de famille, d'avoir cette notion d'être ensemble. Quand il y a une difficulté, on peut s'entraider, on peut trouver des solutions ensemble, mettre des choses qui sont en pratique. Et puis, à un moment donné, les enfants grandissent, ils se marient, alors les familles grandissent. Alors, les noyaux se recomposent, on va dire ça comme ça. Hein, les cellules se refont et puis, en fait, la transmission, elle se passe.
Il y a toujours un lien en chaque cellule,
oui.
Une nouvelle cellule.
Oui. Il n'y a rien, absolument rien de cette planète qui ne soit pas ensemble. Il n'y a que l'être humain qui croit que les choses, elles sont séparées. Même les animaux, ils savent que tout est en accord.
C'est drôle parce que là, j'ai une image du cerveau avec les neurones, comment ça fonctionne, les transmetteurs. Et, quand tu me parlais de cellules, moi, ça me ramenait en fait au fonctionnement cérébral finalement, où toutes les informations passent, il y a disruption en fait. Du coup, ça passe plus, il faut recréer d'autres.
Oui.
Des associations, etc. Et
oui.
Ça a toujours existé
dans
la nature, comme on disait avant.
Absolument. Notre cerveau aussi est extrêmement rapidement. Hein. On a une formation, action-réaction, qui est extrêmement rapide. Et puis même si, par exemple, on prendrait un coup vraiment violent sur la tête, il y a des parties, en fait, qui sont capables de régénérer, faire des ponts. Vraiment,
c'est impressionnant. J'avais vu des images.
C'est magnifique.
C'est beau à voir. Puis finalement, c'est toutes les cellules de notre corps humain qui fait ça.
Oui, tout à fait.
Et je trouve que moi, je ne me rends pas assez compte de la puissance qu'on est en soi, la création qu'on est et le pouvoir de créer.
Donc, pour imaginer un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au rayonnement, c'est quelqu'un qui se casse un numérus.
Oui.
La partie où ça sera cassé, elle sera plus solide que l'os qui est à côté. Lorsque se sera rétabli, on va dire ça comme ça, là où il y a eu la cassure, c'est plus solide que la partie d'os qui sont latéraux.
C'est génial.
Ouais, ça montre vraiment que justement ce rayonnement, il est un peu comme une soudure.
Ouais.
On pourrait imaginer ça comme un peu comme une soudure. Et puis en fait, lorsque l'os s'est cassé, ça fait comme le corps, il refait une soudure. Il permet à ce que ça soit plus solide à l'endroit où ça a été cassé.
Donc, par rapport à ça, j'aimerais spécifier, est-ce que tu crois que c'est possible de penser et que ça se rétablisse plus vite? Avec la pensée, est-ce qu'on peut générer plus d'action, de préparation?
Absolument, absolument. Donc, il faut déjà être conscient qu'on peut amener, en fait, une vraie participation du corps. Donc, il a déjà une participation innée, le corps. Il faut déjà bien être conscient aussi de ça.
Oui.
Et donc, on a une formation de santé qui est extrêmement importante dans notre corps et qui est complètement innée. D'ailleurs, justement, quand on a un corps étranger, comme on dit, dans notre corps, le corps va faire automatiquement comme une capsule et puis va protéger, en fait, le corps de cet objet ou de ce... Donc, on peut donner l'exemple qu'un chirurgien, il a oublié une paire de ciseaux dans quelque part. c'est produit comme ça. Alors, la personne, elle va sentir qu'il y a un objet... non identifié qui est là. Mais le ciseau, il ne va pas faire des dégâts dans l'endroit où il est. Parce qu'en fait, il va être automatiquement
entouré.
Et puis, ça va justement protéger suffisamment le corps pour ne pas subir, en fait...
Oui, c'est ce que j'ai appris ces temps. Les opérations, quand on met des objets, justement, peu importe la matière de l'objet dans le corps, après, le corps... à créer un tissu autour pour fermer tout et
absolument.
Pour l'emballer, comme finalement une araignée qui fait sa toile autour des objets.
Exact. Oh, oui.
C'est assez dingue d'imaginer la puissance en fait, que c'est qu'on a comme protection innée, finalement.
Tout à fait.
Waouh, beaucoup de choses. Beaucoup. Très intéressant. Moi, je suis partie ailleurs, là, pour le coup. Alors, si on revient sur Terre. merci déjà. Et j'aimerais savoir... Quelles sont tes valeurs Actuellement, si tu devais choisir trois valeurs et trois messages que tu voudrais partager au monde, qu'est-ce que tu voudrais immortaliser, laisser?
Moi, personnellement, je pense que la chose primaire, c'est se respecter. Mmh. Et puis la deuxième, c'est de comprendre qu'on est tout amour. Mmh. Et puis que cet amour, en fait, c'est justement, il est dans les phases de rayonnement à tous les niveaux. Il n'y a pas un niveau qui n'est pas concerné par ça. Et puis la troisième, c'est d'aller jusqu'à un point où on peut comprendre qu'on est un réel rayonnement de lumière, lumineux, intense, qui permet de créer tout, absolument tout. Voilà, je crois que...
Je crois qu'on va finir avec ça, parce que je ne sais pas quoi rajouter là-dessus.
Moi, donc... je t'ai pas tendu une perche pour quelque chose.
Je vais absorber ça, laisser mon corps réagir, mes cellules écouter, entendre, absorber. Et merci beaucoup.
Donc, merci beaucoup à toi, Diana, pour ce moment et ces questions.
Merci, Père, pour tes réponses et ta générosité toujours. Oui. J'aimerais savoir si les spectateurs veulent un soin avec toi et en apprendre plus sur tout ce que tu sais faire et tout ce qu'il y a encore à apprendre, où est-ce qu'on pourrait te contacter?
Eh bien, vous pouvez me contacter au cabinet Bel Air, qui est à la place Bel Air 4, 1400 à Yverdon-les-Bains. Et sinon, au 079...
On va mettre toutes les coordonnées en bas, ouais. Si jamais. Vous pourrez cliquer sur les liens pour prendre un rendez-vous de réservation avec Pascal, qui fait des soins incroyables. Je suis passée sous ses mains il n'y a pas longtemps. Et on va aller travailler tous les organes, tous les tissus, la colonne, etc. Tout ce qu'il vous a raconté. Entre autres, et il a plein d'outils dans sa boîte magique. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Tout sera mis en dessous. Et le cabinet s'appelle ?
Le cabinet Bel Air.
Non, ton nom d'indépendant. Sur tes cartes de visite, ça s'appelle comment ?
Ah,
L'éveil.
Maintenant, ça m'a fait un blanc.
Alors, ça sera affiché.
Voilà, exactement.
Voilà, vivre beaucoup dans le moment présent, c'est avoir des blancs aussi. Et c'est parfait comme ça. Merci, Pascal. Merci belle journée à toi. Merci beaucoup. Bonne journée à
bonne
vous.
Bonne journée à vous.
Et à bientôt pour de nouvelles aventures hollywoodiennes. Voilà. Ciao.